Auditeurs, auditrices de FM+, nous sommes dans notre deuxième heure de la matinale ce lundi 9 novembre. Et notre engagé de ce jour, c'est Olivier Fontaine. Bonjour Olivier.
Bonjour Guylaine.
Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est une invitation qui est aussi en lien avec votre dynamisme et votre créativité sur les éco-villages.
D'accord.
C'est une action que vous menez. On s'est déjà vu quelques fois déjà dans nos studios de FM+, et vous nous avez déjà parlé de ces éco-villages.
Parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces éco-villages, Olivier Fontaine ?
Les éco-villages, ça existe depuis déjà un certain temps. Et il y a différents types d'éco-villages, dont, je veux dire, qui différentes formes. Il y a des villages en dur, il y a des villages qui sont aussi itinérants, ce genre de choses. Nous, l'idée, c'est un peu, ça ressemblera à un mot, pour dire, l'idée, c'est de rassembler des gens qui ont un même état d'esprit. Et nous, on les a appelés les villages éco-démocratiques, en fait, pour que tous les êtres puissent vivre libres et heureux et manifester leur vraie nature, qui pour moi est l'amour. La nature de l'être humain, c'est ça. Donc, en fait, le principe des éco-villages, et qu'ils soient autonomes en énergie et en nourriture.
Ce principe de démocratie n'est pas installé dans les éco-villages d'une façon spontanée ?
Pas toujours, non, parce qu'il y a des éco-villages qui fonctionnent, on va dire, sur le modèle de la démocratie actuelle. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec des démocraties, on va dire… Enfin, tout le monde ne décide pas. Et nous, on a vraiment décidé de se dire, pour prendre une décision, l'idée, c'est que tout le monde soit d'accord. Donc, pour moi, ça, c'est la vraie démocratie. C'est qu'on ne prend une décision que quand tout le monde est d'accord.
À l'unanimité.
À l'unanimité, voilà, exactement, absolue.
Et alors, donc, dans cette forme de démocratie-là, liée à une organisation de village, d'éco-village, qu'est-ce qu'il y a comme décision à prendre ? Importante et qui nécessite une unanimité peut-être pas toujours évidente.
C'est pas toujours évident dans la façon de penser, je vais dire, du monde comme il est actuellement, mais il y a des solutions aussi, il y a des principes qui existent pour arriver à cette unanimité. Par exemple, des décisions qui pourraient être prises, c'est est-ce que les véhicules à moteur peuvent aller à l'intérieur du village ou pas ? Ou autre chose, est-ce que dans ce village, on va tuer des animaux ?
Ouais. Alors, j'imagine que toutes ces questions-là se règlent avant même de créer l'éco-village. Il s'agirait d'un règlement intérieur à mettre en place ?
Avant le règlement intérieur, il y a déjà une charte qui existe, en fait, qu'on peut trouver sur vedan.org, une charte qui a qui a 10 points, où justement on met le cadre des éco-villages, des villages éco-démocratiques, de VEDEM, l'abréviation c'est VEDEM, et là on a vraiment 10 points qui expliquent, et au-delà de ça, dans chaque village, il y aura tout à fait
un règlement intérieur. Un
règlement intérieur pour des points plus précis, comme par exemple le fait de tuer ou pas des animaux, ou alors de, par exemple, est-ce qu'on peut ou pas fumer à l'intérieur du village, des choses ainsi, je vais dire.
Alors, dans l'organisation d'un village éco-démocratique, combien est-ce que vous êtes de participants de ce village, vous ici, dans ce que vous connaissez, Olivier Fontaine ?
Ben souvent, c'est entre 10 et 20 habitations, donc ça veut dire qu'il y a… L'idéal pour nous, ce serait d'avoir 25 habitants, enfants compris, parce que bien sûr, quand on est dans une démocratie avec une décision à l'unanimité absolue, c'est important. Si on est 2000, c'est un peu plus difficile que si on est 25. Donc l'idée, c'est ça. Et bien sûr, les personnes avant de décider, on va d'abord réunir les personnes. La première étape, c'est de réunir les 25 personnes. Parce qu'il faut savoir aussi que dans ce principe de démocratie, les enfants peuvent aussi participer aux décisions à partir de 6 ans. Donc, quand on dit tout le monde, c'est les enfants à partir de 6 ans et les adultes jusqu'à le plus grand âge qu'ils peuvent avoir.
Et les enfants participent même sur des sujets qui, apparemment, ne les concerneraient pas directement ?
Euh, pourquoi est-ce que les sujets ne concerneraient pas les enfants, parce qu'ils vivent aussi dans les villages.
C'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête là, mais de bien y avoir des sujets qui concernent que les adultes, non? Par exemple, doit-on avoir une machine à laver le linge électrique ou pas? Ou une machine à laver la vaisselle?
Je pense que par rapport à ça, on ne va pas aller si loin dans le règlement intérieur. Mais moi, je pense que dans la vie du village, les enfants sont concernés aussi. Donc, on ne va pas aller trop loin. Par exemple, dans chaque maison individuelle, les gens font encore ce qu'ils veulent. Je veux dire, a priori, à partir du moment où ils respectent le cadre, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais on parle de la vie du village pour l'ensemble des habitants. Et comme pour moi, ça part le même principe que les écoles démocratiques, d'ailleurs, hein, où les enfants peuvent décider avec les adultes, et on considère d'ailleurs plus des enfants et des adultes, on considère comme des membres. Mmh. À partir du moment où ils ont 6 ans, ils ont toutes les capacités pour décider, et ils vivent aussi dans le village. Donc pour moi, ça me paraît tellement évident que c'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Mais bon, après ça n'engage que moi.
Alors, Olivier Fontaine, vous avez créé vous êtes en co-organisation, cette association VEDEM pour mettre en place des éco-villages démocratiques. Où en êtes-vous dans la création réalisée?
En fait, l'association, elle existe. Pour le moment, on est sur la mise en place du premier village qui devrait être dans, on va dire, autour de Montpellier, mais en tout cas non, dans l'Hérault, on va dire, dans l'Hérault, quelque part dans l'Hérault. Et donc, pour le moment, on est toujours sur la phase de réunion des habitants, enfin des villageois, parce que c'est vraiment important, c'est la base, c'est d'avoir des personnes qui s'entendent et qui sont d'accord par rapport à la charte, et j'ai envie de dire qu'ils ont la même énergie.
Oui, j'imagine que ça demande un certain temps de mettre en place cela, puis ensuite d'être certain qu'on est tous dans la même, ce que vous appelez dynamique. Peut-être même y a-t-il des gens qui sont partis, peut-être même.
Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est le point le plus important, c'est de vraiment s'assurer que les personnes soient dans la même dynamique et dans le même état d'esprit, donc qui soient en accord avec la charte de VEDEM. Et une fois que ça se sera fait, ben, je pense qu'on va d'abord apprendre à se connaître correctement, et quand on se connaîtra bien, on pourra manifester le terrain, le lieu, etc., tous ensemble. Parce que très souvent, moi, j'ai vu des villages qui, les gens arrivaient, en fait, le terrain était déjà là, les maisons étaient déjà prédéfinies, tout était déjà prédéfini, les gens arrivaient après. Pour moi, c'est un fonctionnement à l'envers. Ouais. Ce que je pense, c'est d'abord réunir les personnes et s'assurer que les personnes peuvent vivre ensemble. Et une fois qu'on a réussi à voir que les personnes pouvaient vivre ensemble, ben là, on va pouvoir tout manifester et tout faire ensemble et respecter cette démocratie.
Alors, pour vérifier que vous êtes en mesure de vivre tous ensemble, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en vacances?
On pourrait partir en vacances, mais on se réunit souvent, on fait des pique-niques, on fait des choses pour se connaître, en réalité, apprendre à se connaître, des réunions, on se réunit, on se voit, et on apprend à se connaître vraiment. Après, c'est vrai que dans la vie concrète, c'est un peu différent, mais c'est vrai que, par exemple, on avait une idée, peut-être qu'avant de créer le premier village, on va peut-être louer un lieu pour habiter ensemble.
Oui. Et est-ce que ça veut dire que le groupe des habitants est fermé aujourd'hui?
Non, pas encore.
Comment vous l'envisagez?
On n'a pas encore, pour le moment, on a une dizaine d'habitants, 10-12 habitants, et on est à la moitié, je veux dire, a priori, il est pas encore fermé. Donc, on continue à faire des présentations. Et on en fait une mercredi prochain, toujours à Montpellier, pour permettre à de nouveaux habitants de venir voir s'ils correspondent, enfin, si le cadre leur correspond ou pas. Donc, c'est toujours ouvert, oui, c'est toujours ouvert. Tant qu'on n'aura pas 20 à 25, on va dire, personnes qui sont dans la même dynamique, ben on continuera à présenter, on n'avancera pas sur le reste.
Donc, c'est mercredi 11 novembre.
Peut-être, oui, mercredi prochain, oui.
C'est le 11 novembre. D'accord, 11 novembre. C'est le 11 novembre.
Oui.
C'est un jour férié, mais c'est pas grave. En période de confinement, mais c'est une réunion virtuelle ou réelle?
Les deux, en fait, virtuelle et réelle. Ce sera sur Zoom, mais en même temps, ceux qui veulent, qui peuvent venir au local d'Énergie 12, rue d'Alco.
Alors, avant de se lancer dans cette aventure, si des auditeurs et auditrices nous écoutent et voudraient vous rejoindre, que faut, enfin, en plus des éléments que vous venez de nous donner, que faut-il considérer encore? Est-ce que ce sont des gens qui peuvent avoir une activité professionnelle ou est-ce que vous préférez des gens qui ont cessé leur activité? Comment, est-ce qu'il y a un profil?
L'idée, c'est de faire de l'intergénérationnel. Donc, tout le monde peut venir à partir du moment où ils sont en accord avec la charte qu'ils vont pouvoir trouver sur vedem.org. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum, on va dire, de différences d'âge. En fait, ce serait vraiment bien d'avoir des enfants, tout le monde, quoi. En fait, c'est intergénérationnel. L'objectif, c'est justement de créer une mini-société, si vous voulez, Guylaine.
Est-ce que ça demande un apport financier de la part des nouveaux participants ou des participants qui sont déjà engagés avec vous dans ce projet de VEDEM?
Voilà, alors ça, c'était une grande chose, un grand débat qu'on a eu, parce que si on veut aller dans n'importe quel village, on nous demande d'abord combien on a de sous. Et nous, on a voulu justement même éluder ça en faisant un financement participatif. Et avec nous, on a un spécialiste qui arrive à fructifier l'argent, c'est-à-dire que l'objectif, ça va se mettre sous un système de coopérative d'habitants. Donc, il n'y aura pas de propriétaire ni de locataire. Les gens vont acheter une part de la coopérative d'habitants minimum qui vaudra 10 euros. Et à partir de là, ils pourront participer, mais autrement qu'avec de l'argent, par exemple, avec leur talent et leurs compétences. Par exemple, pour construire les maisons, pour jardiner, ce genre de choses. Et toute la partie financière, on va faire deux types de personnes qui vont rejoindre VEDEM. Donc, les villageois de premier temps et les contributeurs qui voudront contribuer au projet pourront faire ce qu'on appelle des dons à VEDEM. Et nous avons, au départ, on a quelqu'un avec nous qui va pouvoir faire en sorte de multiplier cet argent et faire en sorte que ça s'autofinance.
Donc, nous sommes aujourd'hui là en 2020. Vous avez déjà travaillé sur ce projet-là. Comment, à quelle échelle de temps vous estimez l'installation dans votre village, Olivier Fontaine?
Au plus tard, fin 2022.
C'est très proche.
Et en même temps, c'est très loin pour moi.
2022, c'est 2 ans avec une année de confinement, ça va aller très vite.
Oui, on a l'idée parce que pour moi, 2022, c'est une date clé et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer, mais ça, c'est autre chose.
C'est autre chose, on n'aborde pas ce sujet maintenant.
Oui, donc pour nous, c'est clair que ce sera au plus tard en 2022, même si ça doit être des maisons en paille, je vais dire. Et d'ailleurs, on va se diriger vers des maisons Kerter. Je ne sais pas si vous connaissez, mais des maisons Kerter, c'est des maisons à base de paille et de terre qui se bâtissent en quelques semaines.
Et qui sont, bien sûr, comment dire, les intempéries ne les atteignent pas.
Non, c'est très solide, c'est très très solide. Mmh. C'est des matériaux naturels, de la paille, de la terre, et qui sont intégrés en fait dans le paysage et qui sont très 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 solides.
Nous allons faire une pause musicale, Olivier Fontaine, on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
De retour sur FM+, et toujours avec Olivier Fontaine, qui, je ne sais pas si je peux dire organisateur, co-organisateur, fondateur des villages éco-démocratiques. Olivier Fontaine, comment est-ce que je vous présente ? Animateur ? Non, plus qu'animateur.
Animateur, fondateur, c'est moi qui ai eu l'idée à la base de les faire. Puis maintenant, on est quatre cofondateurs. Donc, un cofondateur et trois cofondatrices, pour être plus juste. Et donc, oui, on peut dire cofondateur, animateur, parce que moi, je m'occupe de toute la communication externe, c'est-à-dire de présenter les villages. Et mes trois collègues, en fait, s'occupent de plus de la co-création.
Alors, Olivier Véden, dans cette première partie d'émission, on a évoqué les grandes lignes, un peu comme ça, à bâton rompu, sur comment est-ce qu'on installe un village éco-démocratique. Mais on a peut-être omis de parler des valeurs qui sont vraiment présentes dans la constitution d'un village éco-démocratique.
D'accord. Alors, les valeurs, c'est le cœur, en réalité, c'est exactement ça. La première valeur, comme je l'ai dit au départ, c'est l'amour. L'amour, qui est pour moi la matière première de l'être humain. On appelle ça comme on veut, mais moi j'appelle ça l'amour. Donc la première chose, c'est l'amour du vivant. Alors l'amour du vivant, on peut en parler longtemps, mais c'est respecter tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, la nature. Donc respecter tout ça, c'est pour moi c'est la base. La deuxième valeur qui est importante, c'est l'équité. L'équité, c'est un peu le contraire de ce qui se passe dans ce beau pays où on parle d'égalité, qui l'égalité où je veux dire, on donne la même chose à tout le monde, ce qui pour moi n'est pas très juste. Pour moi, c'est l'équité, c'est chacun fait en fonction de ce qu'il peut et de là où il en est, quoi. Je veux dire, ça paraît une valeur plus. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous avez une très belle photo qui montre et qui explique l'équité. Le partage aussi, l'objectif c'est de partager, c'est-à-dire on est dans un groupe où on partage équitablement tout ce qu'on fait. La solidarité qui me paraît aussi essentielle, la co-responsabilité. Donc, quand on parle de la décision où tout le monde doit être d'accord pour quand on prend une décision, forcément ça amène la co-responsabilité, le respect, l'ouverture d'esprit, la liberté, l'intégrité, la congruence aussi très importante. La congruence, c'est-à-dire que tout soit bien aligné. Et l'écologie aussi, on attache beaucoup d'importance sur l'écologie individuelle et collective. C'est-à-dire que les gens qui sont, qui en guillemets, j'aime pas ce mot, mais qui travaillent sur eux, donc qui sont en évolution pour devenir le meilleur d'eux-mêmes, on va dire.
Alors, lorsque vous dites respecter le vivant, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui seront dans ce village seront véganes ?
C'est ce que ça veut dire, oui.
Et donc, c'est obligatoire.
Ben, alors, comment est-ce qu'on peut respecter le vivant si on mange les animaux ?
Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas une exigence, difficile à faire comprendre à tous les participants du village ?
Ben, moi, je pars du principe que à partir du moment où les gens, quand on leur parle de respect et de l'amour du vivant, moi, après, je suis végane depuis très longtemps, donc pour moi, c'est quelque chose de normal. Mais donc, je pense qu'on va attirer ce genre de personnes-là. Et pour moi, c'est très, très, très important parce que enfin, dans ce monde où je peux vous donner des exemples, c'est encore une fois, c'est pas l'objectif, quoi. Mais pour moi, c'est une des clés, c'est de respecter le vivant. Donc après, ceux qui ne veulent pas être comme ça, ben, ils peuvent aller dans d'autres villages. Quoi. Je veux dire, mais pour nous, c'est vraiment hyper important de respecter ça, parce que dans le monde dans lequel on est, ben, c'est plutôt le contraire. Quoi. On a pris les animaux plutôt comme des marchandises, et même, enfin tout, et comme une marchandise, même les fruits, les légumes d'ailleurs. Ben, qui sont la nature, tout ça, nous veut revenir à de vraies valeurs, parce que pour moi, il faut savoir que l'être humain n'est pas carnivore, il n'est pas fait pour manger de la viande.
Alors, ce que j'entends de cette perception, de cette conception du village, c'est qu'il y a un aspect à la fois social, mais aussi moral au fond, et puis existentielle, qui va au-delà d'une organisation de la société telle que nous la vivons d'une façon normale dans notre pays.
Tout à fait. Tout à fait, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un système complet, on pourrait presque dire autosuffisant. Autosuffisant, l'objectif, c'est d'atteindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense, c'est d'atteindre l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Et qu'à l'intérieur, qu'il n'y ait pas besoin, en fait, qu'on puisse se nourrir et avoir l'énergie en autosuffisance, mais ça ne veut pas dire qu'on veut être complètement en autarcie. On peut avoir des contacts avec l'extérieur, mais on doit se dire que c'est vraiment important de pouvoir se suffire à soi-même et d'être des gens qui se respectent. Pour moi, je me rappelle la première fois qu'on s'est vu, je m'avais dit, ça ressemble au paradis.
Oui, c'est vrai.
Et parce que j'ai une vision comme ça, pour moi, je pense que c'est vraiment hyper important par exemple, dans un monde où il n'y a pas de compétition, c'est un monde où ce sera dans la coopération et pas dans la compétition aussi. C'est des choses qui sont pour moi naturelles et que je ne retrouve pas, en fait, dans le monde dans lequel je vis.
Alors, aujourd'hui, je dirais que ça ressemble à une utopie. Et aussi que ça rejoint des conceptions éducatives qu'on a pu lire comme Libres enfants de Sommerville, Montessori. Vous êtes dans ces courants éducatifs d'enfants.
Tout à fait. Plus Sommerville, mais il y a encore plus le principe des écoles démocratiques. Il y en a une ici à côté de Montpellier, d'ailleurs.
À Montarnot.
Elle s'appelle, je pense, je ne me rappelle plus, mais il y en a une tout près à Montarnot, en fait. À Montarnot, oui, tout à fait. Et l'idée, c'est ça. Dans ces écoles, par exemple, c'est les enfants qui définissent le cadre. C'est le cadre qui s'adapte aux enfants et non pas les enfants qui s'adaptent au cadre. Et c'est le même principe. Là, l'objectif, c'est que les villageois soient en harmonie. Voilà, le beau mot, je pense que c'est en harmonie les uns avec les autres, dans l'harmonie, dans le respect, dans l'équité. Tout ça, c'est vraiment, oui, c'est un modèle. Moi, je vois ça, une utopie, j'aime bien ce mot, mais tout a toujours commencé par une utopie. Si on avait dit à nos arrière-grands-parents qu'un jour on allait téléphoner sans fil, ils ne nous auraient pas cru.
Oui. Alors, y a-t-il une dimension religieuse dans votre organisation des villages éco-démocratiques?
Il n'y a pas de dimension religieuse, absolument pas. Non, absolument pas. Il n'y a pas de dimension religieuse. Il y a une dimension humaine, on va dire.
Ouais. Pas de lieu de culte. Non. Pas de temps spirituel.
Spirituel, oui, mais pas religieuse.
Pas d'institution.
Après, chacun aura, bien sûr, tout le monde pourra aller travailler à l'extérieur. Les gens pourront aller au culte à l'extérieur. Mais à l'intérieur, en fait, l'objectif, c'est pas d'avoir d'institution. Enfin, on va prendre des gens de toutes les couleurs, de toutes les tendances. Oui. Vraiment, il n'y a pas de religion, on va dire.
Alors, Olivier Fontaine, on arrive à la fin de notre entretien. Y a-t-il un des aspects de ces villages éco-démocratiques que vous aimeriez présenter, que j'aurais omis de, sur lesquels j'aurais omis de vous questionner?
Je pense que ce qui est le plus important, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que moi, ce qui m'avait bloqué, parce que j'avais déjà voulu m'insérer dans d'autres éco-villages, c'était toujours le côté financier qui bloquait. Donc ça, c'est vraiment important de dire que c'est accessible. On veut que même les gens qui n'aient pas de moyens financiers puissent y participer, mais en amenant d'autres moyens et d'autres compétences. Et le côté humain, on va dire, c'est ces deux côtés-là qui me semblent le plus important, c'est vivre dans une communauté où les gens sont en harmonie. Et je suis en train de réfléchir à ce qui pourrait, vraiment c'est ça, et le respect de la vie. Donc c'est ces trois choses-là qui me paraissent vraiment, vraiment essentielles. Et bon, oui, moi je crois que c'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Et l'objectif, c'est d'arriver à un système où les gens vont être libres et heureux.
Voilà un beau projet. Quoi qu'il en soit, Olivier Fontaine, on peut très bien vous retrouver mercredi 11 novembre à Énergie Douce. On retrouve ces informations sur le site vedem.org.
Tout à fait.
Et puis, on peut vous rejoindre, j'imagine qu'il faut s'inscrire pour participer par Zoom ou par visioconférence.
Oui, il y a sur le site, en fait, les personnes qui veulent devenir villageois, il y a possibilité de faire une demande et après, on les informe par mail et on leur envoie toutes les informations, tout à fait.
D'accord, donc ce sont vraiment des personnes qui sont presque décidées,
oui, voilà,
d'investir ce lieu.
On peut dire que la charte, ça sélectionne un peu les personnes. On demande d'abord aux gens, parce que une des conditions leur dit, pour participer, d'abord vous adhérez à la charte.
Très bien. Je vous remercie, Olivier Fontaine, de nous avoir éclairci encore une fois sur cette organisation des VDEM, des villages éco-démocratiques. Merci.
Avec joie. FM Plus.